Bonjour.
Bonjour, la folle cavale du forcené de Bienne a connu son épilogue ce matin avec l'arrestation de Peter K. par les forces de l'ordre. Le retraité a été interpellé sur la base d'indices fournis par la population. Nous ferons le point avec notre correspondante à Bienne, Célestine Perichinotto, et nous recevrons en direct le commandant de la police cantonale bernoise, Stéphane Blettler. C'est une information RSR, la résistance s'organise contre l'application du CASIS de Dijon. Selon nos informations, un premier recours a été formé déposé cette semaine contre l'admission en Suisse du cidre danois, premier des 6 premiers produits à avoir reçu le feu vert de l'Office fédéral de la santé publique le mois dernier. Enquête de Pascal Jeannerat dans ce journal. Bien des choses, c'est le titre du spectacle des ex-déchiens de Canal+, François Morel et Olivier Saladin, à voir ce soir à la salle communale donnée dans le canton de Genève. Les deux hommes s'en donnent à cœur joie avec en fil rouge le contenu des cartes postales que les Rouchons écrivent aux Brochons. Nous recevrons François Morel et nous accueillerons aussi le parolier Jean Fauque qui participe ce soir à la soirée hommage à Bachung au festival La Belle Suisse. Retour d'un temps sec cet après-midi sur nos régions, mais les passages nuageux empêcheront le soleil de s'imposer franchement. Le mercure affichera 18 à 20 degrés en pleine au meilleur de la journée. Une nouvelle perturbation pluvieuse abordera la Suisse. Demain, le mercure perdra quelques degrés et le soleil ne sera pas de retour avant dimanche après-midi, nous dira Sébastien Dupéret. La police a donc mis un terme ce matin à la cavale de Peter K. après 10 jours de cache-cache avec les forces de l'ordre. Célestine Perichinotto, vous venez d'assister à la conférence de presse donnée par la police bernoise et le service du juge d'instruction. Le retraité a été retrouvé grâce à des informations de la population.
Oui, plusieurs témoignages sont parvenus à la police bernoise, mais c'est un téléphone d'une habitante de la région de Bienne ce matin vers 5h30 qui a été décisif. Elle prétendait avoir reconnu le fugitif selon la photo. Une patrouille de policiers balois, bernois et lucernois flanquée d'un chien s'est immédiatement rendue sur place et effectivement, à 6h09 ce matin, au Ride, sur les hauteurs de Bienne, le retraité était arrêté alors qu'il marchait sur un sentier campagnard. Il n'était pas armé et n'a opposé aucune résistance. Le héros du jour s'appelle Pharo, c'est le chien balois, c'est lui qui a aidé à l'arrestation. Il l'a mordu au bras, mais à part cette blessure, l'homme de 67 ans est en bonne condition de santé. Il est actuellement en prison. Une instruction pour tentative de meurtre est notamment ouverte contre lui.
Et cette affaire digne des plus grands polars aura tenu la Suisse en haleine pendant 10 jours. L'histoire d'un homme au pied du mur qui se barricade chez lui, tire sur la police et prend la fuite.
Oui, c'est ça. La traque du retraité débute le mercredi 8 septembre. L'homme s'oppose à la vente forcée de sa maison, se barricade chez lui. La police afflue en masse. Le retraité sort de chez lui. Il tire et blesse grièvement un policier. Malgré l'important dispositif de sécurité, il réussira à s'enfuir à 2 reprises. Durant toute cette semaine de recherche, on découvre un homme finalement énigmatique. On le dit mathématicien, mais on n'en sait trop rien aujourd'hui. On ne sait pas où il a habité ces 30 dernières années, mais visiblement, il est dangereux. La police découvre au domicile tout un arsenal, dans une cache. Et puis il y a l'échange épistolaire avec les autorités biennoises où il écrit sa colère et sa haine pour les représentants de l'État qu'il tient pour responsable de la vente du seul repère qu'il a finalement dans sa vie. C'est la maison familiale héritée de ses parents.
Célestine Perichinotto, merci. À vos côtés, Stéphane Blettler, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes le commandant de la police cantonale bernoise, soulagé évidemment après l'arrestation de ce matin.
Oui, bien sûr, nous sommes tous soulagés. Je suis soulagé pour la population biennoise qui a quand même dû supporter pas mal d'inconvénients ces 8-9 derniers jours. Je suis soulagé pour mon corps de police parce que mes collaboratrices et collaborateurs ont fait un formidable travail, ont démontré un énorme engagement au cours des jours et nuits passés. Donc je suis soulagé pour eux parce que nous avons finalement atteint notre objectif.
L'affaire n'est pas encore terminée, il va maintenant falloir déterminer où le fugitif s'est caché, s'il avait des complices. C'est ces zones d'ombre que vous allez tenter d'éclaircir en priorité.
Bien sûr, cet après-midi, le juge d'instruction va commencer à l'interroger et le fugitif devra répondre à pas mal de questions parce qu'il s'agit maintenant d'établir qu'est-ce qu'il a fait depuis le 8 septembre passé jusqu'à ce matin lors de son arrestation. Nous voulons savoir où il s'est caché, qu'est-ce qu'il a fait. Et finalement, il s'agira de savoir quels sont ses motifs parce que nous en savons rien pour l'instant.
Quels enseignements vous pouvez tirer à chaud de cette affaire, Stéphane Blättler ? Vous avez le sentiment d'avoir commis des erreurs dans la conduite de cette enquête ?
Alors, il faut savoir que cette enquête était une enquête tout à fait particulière. Nous avons eu affaire à un individu qui a démontré qu'il est très dangereux. Nous en savions très peu de choses. Nous avions, à l'époque de notre intervention, très peu d'informations. Et finalement, nous ne savions pas où il pouvait se réfugier, parce que son seul point de repère connu, c'était sa maison, qu'il a visiblement, de manière armée, défendue. Maintenant, nous avons franchi une étape, nous l'avons pu arrêter. L'enquête, pourtant, continue. Donc, il y aura encore beaucoup de questions à élucider. Quant au travail de la police, comme nous l'avons toujours fait dans le passé, pour des opérations similaires, nous voulons savoir comment nous avons travaillé. Donc, nous faisons un débriefing, comme nous l'appelons. Nous voulons savoir qu'est-ce qui a bien fonctionné. Et il y a des choses qui ont très bien fonctionné. Et quels sont peut-être des aspects qui pourront être faits de manière diverse une autre fois. Il s'agit donc de tirer des leçons et de les appliquer lors d'une prochaine fois. Mais pour l'instant, il est beaucoup trop tôt de vouloir dire ceci ou cela va être changé. Il faut vraiment se prendre le temps et discuter avec toutes les forces, tous les services engagés pour savoir quels sont finalement les enseignements tirés.
Merci beaucoup en tout cas Stéphane Blättler d'être venu en direct dans ce journal. Commandant de la police cantonale bernoise, vous répondiez à l'invitation de Célestine Pericinotto. Merci. C'est une information RSR. La colère gronde contre l'application du CACIS de Dijon. Selon nos informations, un premier recours a été déposé cette semaine contre l'admission en Suisse du cidre danois. Recours déposé par l'Association Suisse des producteurs de fruits. La boisson scandinave faisait partie des 6 premiers produits à avoir reçu le feu vert de l'Office fédéral de la santé publique fin août. Et ce premier recours ne sera pas le dernier, Pascal Jeannerat.
Non, la reconnaissance des normes autrichiennes pour le jambon est aussi dans le viseur de l'Union Suisse des paysans. L'USP qui déposera, elle, son recours au tribunal administratif fédéral la semaine prochaine. Sur les 6 produits admis fin août par l'OFSP au titre du CACIS de Dijon, parmi lesquels il y a aussi le sirop français, la limonade italienne et 2 fromages allemands et français. Voilà donc déjà 2 produits attaqués d'un recours. Alors celui des producteurs de fruits porte sur le cidre danois, comme le confirme la vice-directrice de Fruits Union Suisse, Josiane Engasser.
Oui, nous avons fait un recours cette semaine. Le motif, c'est que la loi danoise prévoit qu'un cidre peut être préparé avec 15% de cidre. Dans la loi suisse, le cidre doit au moins contenir 70% de cidre.
Vous avez bon espoir de voir votre recours aboutir ?
J'espère bien, oui. C'est aussi pour les consommateurs suisses qui sachent qu'un vin, c'est vraiment un vin, quoi, et pas une boisson diluée.
La résistance des campagnes grandit donc contre le CACIS de Dijon avec ses recours, mais plus que des espoirs juridiques pour les producteurs suisses, ils marquent peut-être surtout leur volonté de voir la Confédération soutenir la promotion en Suisse de la qualité des produits suisses.
Pascal Jeannerat, merci. On reste à Berne où le Conseil fédéral fait marche arrière. Il renonce à soumettre à autorisation la garde des enfants par la famille ou les proches, pour autant que les parents soient d'accord. Exit aussi l'obtention d'un agrément pour les nounous et les filles au père à domicile. Le gouvernement a revu sa copie après la levée de boucliers soulevés par une première mouture jugée trop tatillonne, Christelle Domangeau.
Le Conseil fédéral corrige parfois de manière fondamentale, mais tient à garder le cap d'une plus grande professionnalisation de la prise en charge des enfants. La modification la plus attendue, c'est bien sûr le renoncement à ces sortes de permis de garde obligatoires pour les grands-parents ou autres parents et marraines. Certains y voyaient une mise sous tutelle des parents. Dans le domaine de l'accueil de jour, seules les activités rémunérées hors cadre familial seront soumises à autorisation. Et cela dès que des enfants passent plus de 10 heures par semaine chez les parents de jour, plus de 12 semaines par an. Les familles d'accueil seront, elles, soumises à autorisation même si elles ne sont pas payées, car héberger un enfant équivaut à l'intégrer à la famille, ce qui n'est pas sans conséquence pour l'enfant. Là aussi, les critères temporels ont été précisés pour être soumis à approbation. Il faut accueillir un enfant au moins 3 nuits par semaine pendant 4 semaines de suite ou pendant 10 semaines par an. Toutes ces propositions repartent maintenant en consultation.
Et le Conseil fédéral s'est également prononcé ce matin pour encadrer strictement les organisations d'aide au suicide comme Exit ou Dignitas. Ces associations pourront continuer leurs activités mais sous certaines conditions. Le gouvernement souhaite aussi proposer de nouvelles mesures de prévention du suicide et d'encouragement des soins palliatifs. L'option d'interdire purement et simplement l'aide au suicide a par contre été abandonnée, Valérie Auert.
Oui, c'était l'une des options envisagées par le Conseil fédéral. L'interdiction pure et simple, l'autre était d'imposer certaines obligations aux organisations d'aide au suicide. Et c'est cette dernière option qui a été retenue. Evelyne Widmer-Schumpf devra présenter un projet de loi avant la fin de l'année. Il précisera quelles seront les obligations d'Exit ou Dignitas. Par exemple, dans quel genre de maladie peuvent-elles intervenir? Que faire lorsque la maladie n'est pas fatale, mais que la personne n'a plus envie de vivre ou souffre d'Alzheimer? Les activités d'Exit ou Dignitas devront-elles être encadrées par des médecins? Et si oui, combien? Tous ces points devront être clarifiés. Ce qui est certain, c'est que le souhait de légiférer en la matière au niveau fédéral est net. 22 cantons, 8 partis politiques, 54 organisations estiment que les mécanismes actuels de contrôle de l'aide au suicide ne sont pas assez efficaces. Enfin, comme souhaité également lors de la procédure de consultation, la prévention du suicide et l'encouragement des soins palliatifs seront tous deux renforcés. Le ministre de l'Intérieur, Didier Bourquelter, proposera tout un arsenal de nouvelles mesures.
Valérie Auert, merci. Oulima Ourer doit annuler sa visite en Israël. Appel lancé ce matin à Berne par une trentaine d'organisations, dont le groupe pour une Suisse sans armée, le Parti socialiste et le Forum pour les droits humains Israël-Palestine. Ils estiment que le voyage prévu le mois prochain par le ministre de la Défense torpille les efforts de paix et de la diplomatie suisse au Proche-Orient. Bref, rarement le voyage d'un conseiller fédéral à l'étranger n'aura suscité une telle polémique, Christian Favre.
Effectivement, on peut rappeler qu'au moins 3 conseillers fédéraux se sont rendus en Chine cette année et qu'aucun de ces voyages n'était contesté par les associations de défense des droits de l'homme. Or ici, en répondant positivement à l'invitation du ministre de la Défense israélien, Uli Maurer soulève de très vives critiques. Il faut dire que ce voyage tombe dans un contexte délicat. Il entre en collision avec les efforts de la Suisse, sous mandat de l'ONU, pour tenter de réunir les acteurs régionaux suite à la guerre de Gaza. Et puis, autre télescopage, il devrait intervenir juste après les rapports sur l'affaire des flottilles humanitaires, a raisonné par l'armée israélienne au large de Gaza. Du coup, les organisations mobilisées contre ce voyage redoutent que la diplomatie militaire d'Uli Maurer nuise à l'image du pays. Ils estiment qu'en renforçant sa collaboration militaire avec Israël, la Suisse apporterait un soutien unilatéral à l'occupation israélienne, peu conforme avec sa neutralité. Au département de la Défense, on rappelle que ce voyage n'est pas confirmé. On en saura plus lundi sous la coupole quand Uli Maurer viendra répondre aux questions des parlementaires sur l'opportunité de son déplacement en Israël.
Économie Sunrise passe dans le giron du fonds d'investissement CVC Partners. Après l'échec de sa fusion avec Orange, le numéro 2 de la téléphonie mobile en Suisse souffrait de sa petite taille sur un marché largement dominé par Swisscom. La vente par l'opérateur danois TDC le place pour 3,3 milliards de francs dans les mains d'un fonds d'investissement international. Une opération qui ravit le patron de Sunrise, Esther Coco.
Oui, le danois TDC avait manifesté son intention de se défaire de Sunrise alors que le projet de fusion avec Orange battait son plein. Après le veto de la Comco, Sunrise s'est donc tourné vers des investisseurs étrangers. Cette fois-ci, il s'agit d'un fonds d'investissement dont la fonction consiste à racheter des entreprises pour les revendre quelques années plus tard au meilleur prix. Avec un chiffre d'affaires de plus de 97 milliards de francs, CVC Partners est un acteur international qui s'intéresse aux sociétés non cotées de tous les secteurs. Olivier Steil, patron de Sunrise depuis 3 mois, qualifie ce partenaire de solide, orienté sur le long terme et qui soutient le projet d'investir aussi bien dans le réseau que dans le service à la clientèle. Au niveau du réseau fixe, le but est de desservir 80% de la population helvétique d'ici fin 2010. Jusqu'ici, Sunrise, qui détient 22% du marché de la téléphonie mobile, était pénalisé par la voie solitaire, notamment en ce qui concerne les frais de terminaison mobile entre opérateurs. Par ailleurs, Olivier Steil a affirmé tout à l'heure qu'aucun licenciement n'était prévu pour l'heure.
Esther Coco, merci.
Radio Suisse Romande, le journal de la mi-journée, David Racana.
Et le plaisir d'accueillir François Morel en duplex de nos studios de Genève. Bonjour.
Bonjour.
Chanteur, auteur, comédien, vous êtes ce soir en spectacle à la salle communale Donnet dans le canton de Genève pour votre spectacle Bien des choses aux côtés de votre ancien acolyte des chiens, Olivier Saladin. Le fil rouge, c'est la carte postale, celle que les Rouchons écrivent aux Brochons et vice-versa.
C'est ça, c'est exactement ça. Vous avez tout résumé.
Quel rapport vous avez vous-même avec la carte postale? C'était un passage obligé quand vous étiez enfant, obligé d'écrire à grand-papa, grand-maman?
Oui, il fallait écrire à ma tante Hélène, à ma tante Simone et à ma grand-mère. Et comme toutes ces trois dames se connaissaient, elles se montraient les cartes postales, donc il fallait faire preuve de beaucoup d'imagination.
Il fallait pas copier les mêmes.
Ça m'a aidé pour l'écriture de ce spectacle.
À l'époque du SMS, des emails, la carte postale, c'est un peu démodé quand même aujourd'hui.
Je crois pas. Il paraît que c'est une entreprise extrêmement florissante. On envoie toujours énormément de cartes postales. Et puis c'est plus humain, c'est plus chaleureux. Il faut trouver la carte postale, trouver le timbre, il faut trouver quelque chose d'original. C'est différent du SMS et je trouve que c'est sa spécificité.
Je vous propose d'écouter un extrait du spectacle et quelques réactions de spectateurs recueillis hier soir à Aunay.
Cher monsieur et madame Rouchon, nous rentrons le 7 et non le 6, comme le 2, je vous l'écrivais. Le 6, les charters étaient pleins, dire que le 10, nous repartons. Je n'aurai donc que le 8 et le 9 pour aller au docteur, passer à la pharmacie, chercher les médicaments et renvoyer les bulletins à ma caisse. PS, le 28, nous serons de retour pour le repas des anciens. Changement de programme, nous rentrons finalement le 6 et non le 7, comme annoncé précédemment. On nous a trouvé deux places, comme j'ai dit à la dame de l'agence, deux petites places, on n'est pas bien gros. Le 8, Roger devait faire ses examens et de la reporter au 29. Comme il dit, si on doit lui trouver du cholestérol, autant qu'il la prenne après le repas des anciens.
Un magnifique numéro d'acteur, un texte ciselé, une complicité entre les deux personnages, un grand spectacle. C'était très bien.
Le jeu des acteurs, tout était vraiment super. À ne pas manquer.
Que du bonheur, un grand moment de jeu d'acteur, vraiment un pur plaisir.
C'était magnifique, c'était très drôle, c'est très fin, c'est comme ils disent, très fin et décalé.
On dit toujours que Rome ne s'est pas fait en un jour, c'est possible. Quoi qu'il en soit, avec Robert, nous avons réussi à faire Venise en une matinée. C'est beau, d'accord, mais ça aurait besoin d'un sacré ravalement. Et puis, comme dit Robert, quand on a vu un canal, on les a tous vus.
Voilà donc pour cet extrait de ce spectacle, François Morel. Finalement, on écrit peu de choses sur une carte postale, quelques mots pour dire que tout va bien, des banalités comme ça d'usage. C'est ce qui en fait finalement peut-être un joli support pour un spectacle comme ça humoristique.
Oui, c'est toujours un prétexte finalement. Le sujet des cartes postales, c'est pour parler de l'humanité d'une certaine manière et parler du fait que le monde est compliqué, qu'on essaie de se raccrocher à quelques mots pour essayer de le décrire et qu'on a beaucoup de mal.
À vous voir sur scène, on sent que vous appréciez particulièrement ces retrouvailles avec votre ancien complice des Deschiens, Olivier Saladin. Votre complicité saute vraiment aux yeux, on voit que vous prenez du plaisir.
On s'amuse beaucoup, particulièrement hier d'ailleurs où Olivier a eu un fou rire, ouais. ce qui n'est pas prévu. J'ai vu certains acteurs qui avaient des fous rires préparés, mais ce n'était pas le cas hier.
Oui, il semblait bien naturel en tout cas. Comme à l'époque des Deschiens, il n'y a pas de méchanceté dans ce spectacle, François Morel. Au contraire, on va dire beaucoup de tendresse pour les gens simples. C'est le commun des mortels qui vous inspire, pas les gens qui ont un parcours un peu extraordinaire.
Je me suis trompé en fait, je voulais faire un spectacle extrêmement méchant. Je m'étais dit cette fois-là, je vais essayer de faire un spectacle plutôt à la réserve qu'à la Sampé et je n'ai pas réussi, donc c'est un échec.
On va dire un mot sur votre actualité également de comédien. On vous a vu à la rentrée dans les films Le Pigeon sur TF1, vous avez d'autres projets télé ou ciné?
Là, je viens de tourner un texte de Jean-Loup Dabadie, Gérald K. Gérald, qui est un commissaire de police plus proche de l'inspecteur Clouseau que de l'inspecteur Maigret. Voilà, c'était très amusant à tourner, notamment avec Raphaël Mesrahi, qui est mon double.
Merci beaucoup en tout cas François Morel d'être venu quelques minutes dans ce journal. Vous êtes ce soir à la salle communale d'Aunay dans le canton de Genève pour votre spectacle Bien des choses avec
je
Olivier
peux juste dire...
Saladin. Oui.
Je peux juste te dire qu'on sera à Monté samedi soir.
À Monté également samedi soir. Voilà, le message est passé. Bon après-midi à vous, bon spectacle ce soir. Merci. Culture encore avec le succès grandissant des artistes chinois dont les œuvres atteignent des prix records aussi bien dans leur pays qu'à l'étranger. Plus qu'un simple phénomène de mode, cet engouement s'explique aussi parce que l'expression artistique permet de dire des choses qui ne passeraient pas sous une autre forme. C'est la carte postale justement chinoise de notre correspondant à Pékin, Alain Arnaud.
C'était il y a 10 jours au musée d'art national de Pékin, vernissage d'une œuvre monumentale du peintre Liu Yaming. Une toile de 16 mètres sur 3, des centaines de personnages en train de fuir une catastrophe climatique. Une œuvre très critique, très noire, très dérangeante. Et pourtant, c'est dans le plus officiel des musées qu'on la montre, Liu Yaming.
Les officiels sont plus tolérants que par le passé. Vous voyez, les hauts fonctionnaires en charge des affaires culturelles sont venus aujourd'hui et ils sont très élogieux. Je crois que notre nation et notre gouvernement sont en train de s'ouvrir de plus en plus. Autrefois, les officiels ne seraient certainement pas venus à mon vernissage. Mais là, nous évoluons, nous nous améliorons, nous nous ouvrons. Nous devenons tolérants sur tous les sujets. Je suis très ému.
Liu Yeo, vous êtes le directeur de la Red Gate Gallery, une galerie privée. C'était la première galerie étrangère installée à Pékin. Alors on a vu le musée national qui accueille une exposition très critique sur l'environnement. Chez vous, actuellement, une expo avec des femmes nues. Par rapport à il y a 10 ans, la situation s'est détendue. On peut oser davantage lorsqu'on est artiste.
Je pense que par rapport à il y a 10 ans, la situation ici actuellement est beaucoup plus ouverte. Mais en même temps, on dirait que la politique, la situation est aussi un peu plus stricte qu'il y a 2 ans avant les Jeux Olympiques. Par exemple, aujourd'hui, à partir de cette année, le gouvernement chinois a émis une nouvelle loi disant que pour exporter n'importe quelles œuvres, on doit passer au ministre de la Culture.
Et il y a toujours des sujets tabous. On ne parle pas de politique, on ne parle pas de sexualité, ou alors on le fait en prenant beaucoup de précautions.
Beaucoup de précautions, c'est beaucoup dire, mais en même temps, je pense que tous les artistes essaient d'aborder des sujets intéressants, c'est-à-dire il s'agit de la politique, de la sexe et tout ça, mais c'est toujours au deuxième degré. Je pense que pour des amateurs d'art, ça c'est aussi plus intéressant. Ça nous permet aussi de décrypter des images assez facilement.
Et souvent plus facilement que les sbires de la censure avec qui beaucoup d'artistes prennent un malin plaisir à jouer au chat et à la souris.
La carte postale chinoise d'Alain Arnaud que l'on retrouve tous les vendredis dans le journal de la mi-journée. Photos, détails et infos sur notre site internet rsrinfo.ch, rubrique le 12-30. Et Jean Fauque nous a rejoint en direct dans nos studios de la Maison de la Radio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des plus grands auteurs de la chanson française. Vous avez écrit pour des dizaines d'artistes, de Vanessa Paradis à Jacques Dutronc, passant par Johnny Hallyday. Mais c'est avec Alain Bachung que votre collaboration a été la plus longue, la plus fructueuse. Vous serez ce soir en concert à la salle Métropole à Lausanne pour la soirée hommage à Bachung organisée dans le cadre du festival Label Suisse de la radio-télévision suisse. Quel sera le programme? Qu'est-ce que vous allez chanter?
Alors je vais chanter La nuit je mens, en fait on m'a demandé si je voulais les faire, et une autre chanson qui était sur l'album L'imprudence qui s'appelle Mes bras et qui est sans doute celle qui me touche le plus parce qu'elle est extrêmement proche du vécu de Alain Bachung lui-même, qui avant d'être quelqu'un avec qui j'ai collaboré était mon ami intime pendant 34 ans, donc elle me touche beaucoup.
Justement, Alain Bachung, votre meilleur ami, 1 an et demi après sa disparition, il est toujours quand même très présent. Il y a des comme ça, des concerts, hommages, des biographies qui sortent. Je suppose que ça vous fait plaisir, toute cette actualité quand même autour de lui.
Oui, j'en suis même surpris. Vous savez, c'est très difficile, hein, quand un artiste disparaît, quelle que soit d'ailleurs sa stature et quel que soit le domaine, on ne sait pas ce qui va arriver après. Personne n'est capable. Il y en a qui tombent dans l'oubli, qui ressortent 5-10 ans après. Et dans le cas d'Alain, il est vrai qu'il y a comme une ruée depuis sa disparition. Il y a beaucoup d'événements autour de lui. Enfin, bien qu'à ma connaissance, ce qui se passe ce soir est assez exceptionnel, une soirée entière chantée avec autant d'interprètes de qualité. Je crois pas que c'est déjà eu lieu, enfin si on en avait fait une à Paris juste après sa disparition. Et c'est formidable, c'est troublant, j'espère juste que ça va durer, que ça c'est pas quelque chose d'éphémère.
On l'a dit, Jean Fauque, vous avez écrit des paroles pour beaucoup d'artistes, c'était particulier de travailler avec Alain.
Oui, c'était très particulier. Il fallait surtout faire preuve de beaucoup de patience. Plus on avançait, et plus la gestation était longue. Mais en gros, on passait à peu près entre 1 an et demi à 2 ans sur l'écriture de chaque album.
Quand Alain Bashung nous a quittés, on a dit qu'il avait un profil hors norme, irremplaçable. Sur la scène, on va dire, francophone actuelle, est-ce que vous voyez des personnalités qui émergent comme ça, un peu de ce gabarit-là ?
Il doit y en avoir, certainement. Alors, qui sont peut-être en devenir, moi j'aurais pas peut-être de nom précis, mais Alain, comme tout à l'heure j'entendais le sketch « Rome ne s'est pas fait en un jour », un artiste ne se fait pas des voix en un mois. Alain, pour arriver à cette dimension mythique et mystique, j'aurais envie de dire, elle a commencé surtout au moment de l'album Fantaisie militaire, et disons qu'il a fallu à partir du moment où il a fait son premier album roman photo, il a fallu une vingtaine d'années de maturation. Donc certainement qu'il y a, et puis chaque artiste est unique, hein. Pour l'instant, on va pas dire qu'on a eu un nouveau Gainsbourg. On peut toujours trouver des approchants, mais le quelqu'un qui fasse exactement le Gainsbourg ou le Ferré, y a eu eux, et puis il y aura peut-être d'autres gens dans leur domaine.
Après avoir écrit pour les autres pendant des décennies, Jean Faulque, vous avez sorti votre propre disque, 13 Aurores, c'était en mai 2008. C'est différent d'écrire pour soi-même, finalement?
Non, parce que c'était assez marrant. En fait, c'était un petit peu les chutes. Comme Alain, j'écrivais beaucoup de ce que lui n'avait pas voulu, et je me suis dit, si je ne les chante pas, je les avais fait, c'était écrit quand même d'une façon assez poétique, un peu particulière. Je me suis dit, si Alain ne les a pas chantés, personne d'autre ne pourra chanter ces textes-là, et si je ne les fais pas vivre, je suis condamné à les faire vivre moi-même, sinon ils vont mourir au fond d'un tiroir, et j'en avais pas envie. Et puis aussi, j'ai commencé, hein, comme tout le monde, en même temps que j'écrivais des chansons, que j'étais parolier quand j'ai débuté, j'étais aussi, je rêvais de chanter, je prenais ma guitare, j'allais faire des cabarets, c'était dans les années 60, début 70. Et j'ai toujours eu ces velléités de chanter. J'avais commis deux ou trois 45 tours dans les années 80. Et un moment, sur cette dernière décennie, après l'imprudence, j'avais presque envie, qui était quand même un très très lourd travail, l'imprudence avec Alain Bashung, le dernier album qu'on a fait ensemble, j'avais envie peut-être de prendre, pas une récré, mais de souffler un peu et de penser un petit peu à moi-même après m'être consacré 15 ans... Alain, et c'est comme ça que c'était un plaisir et une récréation. Je l'ai fait avec des pianistes de jazz prestigieux. À partir du moment où on avait les textes, avant, c'était un plaisir et un bonheur de voir ces compositeurs faire leur mélodie sur ces textes.
Merci beaucoup, Jean Faulque, d'être venu quelques minutes dans ce journal.
Merci à vous.
Vous serez en concert ce soir à la salle Métropole de Lausanne dans le cadre de la soirée hommage à Alain Bashung organisée dans le cadre du Festival Label Suisse de la radio-télévision suisse. Bon après-midi à vous. Merci beaucoup. On se quitte avec votre version de La Nuit Je Mens. C'était en 2008 au Réservoir à Paris.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murènes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort, t'étais pané. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. Des gants de crin, je serre pour un peu, je trempais, histoire de vous.
Voilà donc pour cet hommage du parolier Jean Faulque au chanteur Alain Bashung. Le concert sera diffusé en direct ce soir dans l'émission Radio Paradiso sur la première. Un mot encore pour vous dire qu'à la mi-journée, à la Bourse Suisse, l'indice SMI est en hausse de 0,6% à 6464 points et il est temps de prendre des nouvelles du ciel. Avec Sébastien Dupéré.
Le ciel est encore nuageux sur la Suisse romande, même si quelques éclaircies commencent à apparaître le long du Jura. Cet après-midi, le temps sera partiellement ensoleillé et les passages nuageux resteront nombreux. Les maxima seront compris entre 18 et 20 degrés et le zéro se trouve vers 2600 mètres. En montagne, les vents de sud-ouest sont faibles à modérés. Demain, une perturbation longera le sud de la Suisse. Elle donnera des averses, principalement dans les Alpes. Au nord, les précipitations seront quasi inexistantes et quelques éclaircies pourront se développer, alors qu'autour du Léman, quelques gouttes ne sont pas exclues et le ciel restera le plus souvent nuageux. Les températures seront comprises entre 16 et 18 degrés. Dimanche, les conditions commenceront à s'améliorer et nous repasserons à un temps sec. Après la dissipation des nuages résiduels en matinée, le soleil pourra même se montrer assez généreux. Le mercure se stabilisera aux alentours des 18 degrés. Dès lundi, un anticyclone garantira un temps bien ensoleillé malgré un peu de grisaille matinale.
La météo avec le comptoir suisse à Beaulieu-Lausanne.
Fin de ce journal, merci de votre fidélité, merci à la rédaction, à l'équipe technique d'avoir contribué à sa réalisation. Lundi, nous recevrons l'historien Daniel Thur pour parler de la conférence qu'il donnera le week-end prochain au salon Trame la Bulle de Tramelan dans le Jura bernois sur le thème « Le Moyen-Âge et les héros de bande dessinée ». Ce journal de la mi-journée sera rediffusé dans quelques secondes sur Espace 2. Vous pouvez le réécouter en tout temps sur notre site internet rsrinfo.ch, rubrique le 12-30. Il est 13h, bon week-end.